Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Qu'est-ce que la guerre ? Est-ce simplement une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs pays ? N'y a-t-il pas des guerres internes, comme les guerres civiles ? Parfois des guerres sans lutte armée, des guerres de mouvement, des guerres éclairs et des guerres de position. Avec quel mot peut-on le mieux la définir, sur le plan pratique comme sur le plan philosophique ? L'essayiste et géopolitologue Frédéric Ancel nous en dit plus dans son livre « Les 100 mots de la guerre » publié aux Presses universitaires de France dans la collection « Que sais-je ». Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour Éric Bataillon.
Qu'est-ce que la guerre, Frédéric Ancel ? Est-ce simplement ce qu'en disait Paul Valéry et que vous mettez en exergue au début de votre livre ?
Alors, la guerre, c'est beaucoup de choses. C'est un phénomène polymorphe. J'en donne une très modeste définition, qui consiste dans l'usage massif, létal, collectif et organisé de la violence à des fins politiques ou religieuses et représentée comme telle, je veux dire la guerre, par les belligérants. Il n'y a pas de guerre si on ne se représente pas comme étant en guerre. Représentation, évidemment, chère à mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, que je cite ici. Donc la guerre, c'est un phénomène violent qui fait usage de la violence, collective, encore une fois. C'est organisé. On ne se réveille pas comme ça un matin en allant faire la guerre tout seul à son voisin. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et vous avez des raisonnements, alors qui sont souvent très contestables, mais qui s'appuient toujours soit sur le lucre, enfin la volonté d'obtenir toujours plus, alors de puissance, d'argent, de moyens, d'honneur, de prestige, de frontières, que sais-je encore. Mais c'est avant tout un phénomène violent qu'on ne peut pas, me semble-t-il, interdire ou empêcher totalement. Je veux dire par là que la guerre est fondamentalement humaine. En revanche, en humaniste, convaincu, je pense qu'on peut tout faire pour tenter d'en limiter la cruauté, de la limiter dans le temps, et de la limiter dans l'espace. Et d'ailleurs, c'est tout l'esprit des conventions de Genève et de la Charte des Nations Unies de 1945.
Mais est-ce que la guerre, ce sont toujours des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent parce que d'autres gens qui se connaissent très bien ne parviennent pas à se mettre d'accord ? C'est ce que dit Paul Valéry.
Là, oui, absolument, vous citez Paul Valéry, vous faites bien. Oui, c'est cela, oui. Il est extrêmement rare que des gens qui se connaissent se fassent la guerre. Alors, c'est possible, mais dans un cadre tribal et clanique. Autrement dit, dans des effectifs très petits, des effectifs de population très petits, on a pu aussi voir ça au Rwanda pendant et après le génocide de 1994, puisqu'il a été suivi immédiatement par une guerre, d'ailleurs qui a été concomitante, où là, il y avait la possibilité de se retrouver en face de voisins, ou en tout cas de gens qu'on connaissait. Bon, mais enfin, c'est extrêmement rare. En général, c'est effectivement des gens qui, oui, vous avez raison, se connaissent et qui envoient des gens qui ne se connaissent pas, eux, se faire la guerre.
Et est-il pertinent de distinguer la guerre classique, disons, de la guerre civile ?
Alors oui, c'est pertinent parce que la guerre civile s'inscrit dans un collectif, dans un cadre particulier. J'emploie par exemple souvent le terme de guerre civile, alors qu'il ne se fait pas forcément avec des civils, mais de guerre interne, si vous préférez, au monde arabo-musulman. Vous avez aujourd'hui une vraie guerre civile entre chiites et sunnites d'une part, entre nationalistes et islamistes d'autre part. Et puis la guerre traditionnelle, elle se fait, j'allais dire camp contre camp, mais indépendamment d'un cadre collectif précis. Vous voyez, c'est-à-dire que au XVIIe siècle, par exemple, en France, 16e et 17e, vous aviez une guerre civile au sein du royaume de France. Donc elle était civile parce qu'elle correspondait à un espace particulier qui appartenait à un royaume. Tandis que les guerres européennes, on les a pas appelées des guerres civiles parce que c'était le royaume de France contre le royaume d'Angleterre, etc. J'ajoute un point, si vous le permettez, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à considérer que 14-18 a finalement été, quelque part, une guerre civile européenne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a cette représentation d'une Europe plus ou moins unie, en tout cas de plus en plus unie, du moins, on est beaucoup à le souhaiter, et par conséquent, de ce point de vue-là, a posteriori, rétrospectivement, on considère que 14-18 s'est fait entre voisins, finalement.
Frédéric Ancel, le mot « connerie », que vous référencez d'ailleurs dans votre livre, ne devrait-il pas être le seul mot associé à la guerre ?
Ça, c'est une très très bonne question. Alors, le seul peut-être pas, hélas. Parce qu'effectivement, comme le disait très bien, et je lui rends bien évidemment hommage à Prévert, la guerre est fondamentalement une connerie. C'est-à-dire que lorsque vous constatez la débauche de moyens, de temps, d'énergie, de sang consacré à la guerre, que vous soyez d'ailleurs vainqueur ou vaincu, on se dit que décidément, un certain nombre de gens qui ont le pouvoir à un certain moment dans un certain espace profitent de cette autorité pour envoyer de pauvres gens se faire massacrer. Et malheureusement, ça ne peut pas être le seul mot. Pourquoi ? Parce qu'il y a des guerres justes. Et ça, c'est quelque chose que nous apprend saint Augustin au IVe siècle. Franchement, on peut remonter plus haut d'ailleurs, hein, et on peut aussi descendre beaucoup plus bas dans le temps, c'est-à-dire qu'en 1945, vous n'êtes pas sans savoir, Éric Bataillon, que la Charte des Nations Unies n'interdit pas le recours à la guerre. Simplement, elle l'encadre, hein, dans un article, notamment le fameux 51, qui permet le recours à l'usage de la force en cas de légitime défense. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que la légitime défense, etc. Donc, en fait, ce qui sous-tend votre question, je le partage. D'un point de vue humain et humaniste, la guerre, c'est une connerie et il faut absolument tout faire, réunir toutes les conditions pour l'éviter. Malheureusement, on ne peut pas totalement, définitivement l'éviter. Par conséquent, il faut l'encadrer, l'empêcher le plus possible.
Alors, pour rebondir sur votre propos, vous passez dans votre livre presque toutes les lettres de l'alphabet en revue. Et à la lettre A, vous notez, entre autres, aberration. Alors, non seulement pour suggérer que toute guerre en serait une, mais aussi pour constater que beaucoup de guerres se font en dépit du bon sens. Pouvez-vous nous expliquer avec des exemples, par exemple, au Moyen-Orient ?
Oui. Des guerres en dépit du bon sens, ce sont des guerres qui sont enclenchées alors que le rapport de force est manifestement en sa défaveur. Ça, c'est un premier point. Une bataille ou une guerre aberrante, c'est une bataille ou une guerre qui est menée en dépit du pragmatisme le plus évident, en dépit de la géographie, la fameuse géographie qui, selon mon maître en géopolitique Yves Lacoste, sert d'abord à faire la guerre. Fin de citation. Bon, bah écoutez, vous avez au Moyen-Orient pas mal d'exemples. Je vous donnerai par exemple celui de Gamal Abdel Nasser en 1967 qui, sans enclencher lui-même la guerre, fait tout pour faire croire ou faire penser ou faire craindre aux Israéliens qu'il va la faire la guerre. Il voulait sans doute pas la faire. Le problème, c'est qu'il s'est approché tellement du bord du gouffre qu'il a donné à penser aux Israéliens que, bah, il pourrait la faire. Et il a tout perdu. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. D'ailleurs, j'appelle ça le syndrome Nasser. C'est la politique du bord du gouffre. Il faut toujours savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, en quelque sorte. Donc, on ne fait pas la guerre et on n'entame pas, une fois que la guerre est enclenchée, une bataille sans savoir, j'allais dire, tout ce qu'il peut arriver. En tout cas, les probabilités les plus importantes, hein, de gain ou de perte dans l'espace, dans le temps, bref, sans étudier et analyser sérieusement toutes les incidences, tous les éléments constitutifs de la bataille ou de la guerre qu'on veut enclencher.
À la lettre B, Frédéric Ancel, vous pointez le mot Blitzkrieg, allemand, mais pas seulement.
Le Blitzkrieg, c'est la guerre éclair. Et la guerre éclair, elle a été pour la première fois conceptualisée, même si le terme, évidemment, à l'époque n'intervenait pas, surtout pas dans sa bouche, à lui qui était français, par Bonaparte. Bonaparte, il allait toujours le plus vite, le plus fort, et sur le point le plus faible du dispositif ennemi. C'était vraiment sa trilogie fondamentale, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de moteur. Donc Blitzkrieg, c'était avec des soldats qui marchaient très vite. Et ensuite, nous avons eu le Blitzkrieg des années 30-40, avec bien évidemment l'armée allemande. Je précise que le général et même le maréchal Guderian, hein, qui dirigeait les chars allemands, avait lu Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, dans les années 30, est un vrai stratège. C'est lui qui parle des moteurs combattants. Hein. Et le Blitzkrieg a très très bien marché en 1939 et 1940 et jusqu'en 42. Et puis ensuite, on retrouve cette guerre éclair au Proche-Orient, une région que vous connaissez bien, Éric Bataillon, avec notamment en 56 et en 67 les moteurs combattants, c'est-à-dire les chars, la combinaison chars et chasseurs-bombardiers israéliens contre les forces syriennes, égyptiennes et dans une moindre mesure jordaniennes. Bon, aujourd'hui, c'est plus difficile, c'est plus rare. D'abord parce que on a affaire à des armes différentes et notamment des missiles et des contre-missiles. J'ajoute que le char, notamment du fait de l'explosion, sans mauvais jeu de mots, de cette balistique, le char est devenu une arme désuète. Alors si le char est devenu trop fragile et trop désuet et trop lourd et trop lent pour constituer un blitzkrieg, il reste pas grand-chose d'autre finalement que les chasseurs-bombardiers. Sauf que on les emploie pas souvent de peur de les perdre et ça coûte très cher. Hein. Un chasseur-bombardier, c'est en moyenne, hein, c'est 100 millions d'euros. Hein. Bon, et évidemment, on n'en utilise pas un seul dans une escadrille. Donc je vous dirais que on a moins à faire au Blitzkrieg qu'au milieu du XXe siècle. Néanmoins, ça peut rester localement, on l'a bien vu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, localement, sur quelques jours, sur quelques heures, sur quelques kilomètres carrés, une façon de faire la guerre.
À la lettre C, pas moins de 16 mots, c'est beaucoup. Hein. Parmi eux, le mot camaraderie. Alors ce n'est pas le premier mot qui viendrait à l'esprit à propos de la guerre.
Oui, les guerres et les batailles renforcent l'esprit de corps, l'esprit de solidarité. Ça a été notamment vu, lu, transmis, dit, écrit dans les tranchées et après les tranchées. Donc là, alors c'est pas pour ça que la guerre est fraîche et joyeuse, hein, entendons-nous bien. Mais dans la souffrance, par définition, et notamment lorsque vous avez un ennemi désigné, vous développez, tous les soldats le disent, une forme de camaraderie peut-être plus importante que celle que vous auriez développée sans la guerre.
Toujours à la lettre C, alors là, le mot cartographie, qui va vous faire plaisir, puisque en 1976, votre maître à penser, le fondateur de la géopolitique moderne, Yves Lacoste, publiait son livre désormais célèbre que vous avez cité, « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre », ce qu'il appelait aussi d'ailleurs la géographie des états-majors. Les cartes, c'est le nerf de la guerre ?
Ce serait, sinon le nerf, en tout cas les yeux. Oui, ce serait les yeux de la guerre. C'est-à-dire que pendant des dizaines de siècles, on faisait la guerre sans carte, par définition. On n'en avait pas. Bon, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne cherchait pas à repérer des points dans la géographie, hein, qui a toujours constitué bien évidemment le substrat et le terrain par définition des soldats. Mais depuis au moins l'époque moderne et les guerres napoléoniennes, on ne fait plus la guerre sérieusement sans cartographie. Je dirais que c'est les yeux, ou en tout cas un œil, des états-majors, la cartographie, on l'a vu encore très récemment avec cette guerre qu'on a évoquée tout à l'heure au Karabakh, donc dans une géographie pour le coup qui sert d'abord à faire la guerre selon la formule célèbre de Yves Lacoste, je vous dirais que c'est indispensable, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on dispose des meilleures cartes qu'on remporte la bataille.
Well, everywhere is war.
Orient Hebdo sur RFI.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie de Frédéric Ancel pour son livre « Les 100 mots de la guerre » publié aux Presses universitaires de France. Alors à la lettre H, Frédéric Ancel, il est question d'honneur. En quoi cette vertu est-elle liée à la guerre ?
Ah, ça, l'honneur, ça a été pendant des siècles et des siècles, sans doute beaucoup moins maintenant, on est plus pragmatique et on a les yeux et les esprits rivés sur l'économie avec un E majuscule, sur les ressources naturelles commercialisables, sur des frontières qui peuvent vous permettre d'exporter davantage, bon, ou de subtiliser des produits qui vont permettre ensuite de fabriquer des portables. Je pense évidemment au pillage en règle de l'Afrique des Grands Lacs par de grandes compagnies. Mais l'honneur, pendant des siècles et des siècles, ça a été l'un des moteurs de la guerre. Alors, on pourrait aujourd'hui s'en gosser, on pourrait en ricaner. Si vous voulez, il y a une dimension très viriliste dans l'honneur, mais en même temps, on a eu, à maints égards, notamment au Moyen-Âge, une dimension très chevaleresque. Ça ne veut pas dire que les guerres étaient moins meurtrières, ça veut dire qu'il y avait parfois, je dis bien parfois, moins de tueries et moins de massacres, notamment de civils. Pourquoi ? Parce que ça allait contre l'honneur. Donc on est, si vous voulez, sur une valeur qui est extrêmement ancienne. Aujourd'hui, elle est encore utilisée dans la dimension sémantique, rhétorique. Les chefs de guerre parlent très souvent de l'honneur. Alors l'honneur des armes, l'honneur du drapeau, l'honneur du soldat à la guerre, notamment face aux civils ou face aux prisonniers. Mais regardez à quel point les conventions de Genève, qui régulent en principe, et qui tentent de limiter les effets cruels de la guerre, ne parlent pas d'honneur en réalité. Il s'agit simplement, entre guillemets, de sauver des vies qui doivent être sauvées parce que ce ne sont pas des vies de combattants en armes, officielles. Bon, mais donc je vous dirais que c'est une valeur qui est aujourd'hui extrêmement ancrée dans le temps et qui a quasiment disparu, sauf dans le champ sémantique.
C'est une façon de rester humain, l'honneur ?
Alors, c'est une façon de rester humain si tant est que la guerre le soit. Et on revient en réalité à notre définition ou à notre perception des choses. Dans le cadre d'une guerre juste, c'est-à-dire dans le cadre d'une guerre où manifestement un camp a été attaqué et désigné par l'autre avec un A majuscule, que cette attaque a été préméditée, qu'elle se fait de manière épouvantable avec des tueries de civils. Bon, eh bien là, je dirais que l'honneur, oui, c'est le fait de rester humain et de ne pas ressembler à celui contre lequel vous vous défendez. Et là, c'est votre question est intéressante parce que elle concerne notamment la lutte contre le terrorisme. Si nous, les démocraties, les états de droit, ne conservons pas notre honneur, c'est-à-dire nos valeurs fondamentales et notre droit, nous finirons par ressembler à ceux que nous prétendons combattre. Alors pourquoi les combattre à ce moment-là ? Vous voyez, donc c'est une vraie question philosophique. Donc oui, je vous dirais que oui, l'honneur permet de rester humain puisque les animaux ont beaucoup d'autres qualités, mais les animaux ne pensent pas l'honneur.
La peur, faire régner la peur, Frédéric Ancel. Est-ce une arme de guerre ? Le mot figure dans votre livre, mais vous y voyez surtout la peur du soldat qui monte au front et aussi celle de la famille restée à la maison.
Oui, la peur est une arme. C'est l'une des pires armes de guerre. Elle est d'ailleurs assez déloyale. Elle est assez sale, en fait, cette arme, parce que pour créer de la peur, et bien évidemment, il faut perpétrer des massacres qui vont faire peur. Alors, soit vous faites peur pour faire fuir des populations dont vous convoitez les terres, notamment les terres agricoles, c'est vrai notamment sur le continent africain, mais pas seulement. Soit vous faites peur pour dominer une population que vous, dont vous souhaitez qu'elle reste sur place, mais qu'elle soit dominée par vos soins. Soit, enfin, vous faites peur aux soldats adverses qui, du coup, vont abandonner leur propre population et leur propre territoire. Mais dans tous les cas, c'est une arme sempiternelle, l'une des toutes premières armes, qui, en général, malheureusement, d'ailleurs, ne coûte pas très cher à l'assaillant, parce qu'il suffit de martyriser de pauvres civils.
Prisonnier figure à la page 97 de votre livre. Y a-t-il des guerres sans prisonniers? Et ceux-ci peuvent-ils être un enjeu particulier dans le conflit?
Il est très rare de voir des guerres sans prisonniers. Et je vais vous dire, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que parfois, vous savez très bien ce que ça signifie, pas de prisonniers. Pas de prisonniers, ça veut dire qu'on ne laisse personne vivant sur le champ de bataille. Soit parce qu'on n'est pas assez nombreux ou on n'a pas assez de temps ou de moyens pour aller nourrir des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de prisonniers dans son camp. Soit parce que, et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on préfère créer la peur, panique, hein, et indiquer aux prochains combattants de la prochaine bataille que de toute façon, ils auront intérêt à fuir ou à vaincre parce que sinon, ils seront assassinés. Et puis, les prisonniers, c'est aussi une bien sûr, une manière de, alors soit rançonner leur famille ou l'état dont ils sont issus, dont ils sont originaires, c'est aussi un moyen de faire peur dans la mesure où souvent, dans les geôles de certains états autoritaires et a fortiori totalitaires, les prisonniers sont évidemment extrêmement maltraités.
Et justement, instrumentaliser les prisonniers, n'est-ce pas justement l'une des formes de la guerre asymétrique qui se développe aujourd'hui?
Ah si, mais en principe, on n'a pas le droit. Je dis bien en principe, et on n'a pas le droit, et le droit, vous le mettez évidemment en italique, surligné, souligné, parce qu'évidemment, le droit de la guerre, malheureusement, il n'est pas toujours respecté, c'est le moins qu'on puisse dire.
Frédéric Ancel, dans votre livre « Les 100 mots de la guerre », un mot supplémentaire aurait peut-être pu prendre place, c'est le mot « espace », car une guerre de conquête est en cours aujourd'hui pour l'espace. Pourquoi ne pas l'avoir retenu?
Parce que ça sera nouveau bientôt. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout prophète, je ne sais pas, je sais que, et tout le monde le sait, et à travers votre question, cher Eric Bataillon, vous faites œuvre de géopolitologue, bien sûr que les prochaines rivalités se feront aussi, pas seulement, mais aussi dans l'espace. Mais attention, est-ce qu'il y aura la guerre? On peut très bien assister à de simples rivalités techniques ou commerciales, après tout. Et à ce moment-là, il ne faut pas galvauder le terme de guerre, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu être, on va dire, un peu optimiste, et ne pas créer d'ores et déjà un nouveau front ou un nouveau théâtre d'opération, en quelque sorte, à travers l'espace.
Vous êtes prudent.
Je suis prudent.
Merci Frédéric Ancel, professeur de sciences politiques et de relations internationales à la Paris School of Business, enseignant à Sciences Po Paris. Petit rappel du titre de votre dernier ouvrage, « Les 100 mots de la guerre », c'est publié aux presses universitaires de France dans la collection « Que sais-je ?». Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, cinquième et avant-dernier épisode de notre série sur l'histoire arabe du pétrole, tiré du livre « Au pays de l'or noir » de l'historien Philippe Pétria. À demain donc, dans un instant, le journal.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
religions du monde.